les audacieux, solutions locales pour inspirer demain, sur Radio Balade.
Bienvenue à la cantine. Allez, on se met en file indienne, on attrape un plateau et on s'apprête à se régaler. Aujourd'hui, les audacieux ont posé leur micro dans le réfectoire d'un self pas comme les autres, celui du collège Joseph Anglade à Lézignan-Corbières. Au menu aujourd'hui, un projet de documentaire sur un chef engagé dans l'alimentation saine, diversifiée, locale et vertueuse, et qui arrive à nourrir et surprendre ses jeunes convives tous les jours. Un véritable modèle pour la restauration collective de demain à contre-courant des grands acteurs du prêt-à-manger surgelé. Ce chef, c'est Pierre-Yves Romeller qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
À tes côtés, il y a un vidéaste curieux de documenter les initiatives inspirantes et qui s'est mis en tête de filmer ton aventure pour la porter sur grand écran et inspirer au-delà des frontières audoises. C'est Jacob Redman de l'association de production Covisuel. Bonjour Jacob.
Bonjour.
Alors en guise de mise en bouche, on va commencer par une petite touche d'amertume. Je suis désolé, mais c'est le bilan de la loi Egalim, un texte ambitieux voté en 2018 et qui affichait de grandes promesses pour la restauration collective, dont les cantines scolaires, mais pas seulement, aussi les maisons de retraite et d'autres collectivités. La loi prévoyait donc que dès 2022, les repas servis dans la restauration collective seraient composés pour moitié de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques. Le compte n'y est pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le ministère de l'Agriculture lui-même estime que la part des produits durables varie entre 10 et 15% selon les segments de restauration, je cite le ministère. Pour le bio, on est même à moins de 10%. Mais certains établissements sortent du lot, comme celui qui nous accueille, le collège Joseph Anglade à Lézignan, puisqu'ici les 550 repas quotidiens sont presque 100% bio. Pierre-Yves, tu es arrivé dans l'établissement il y a 6 ans, je crois, maintenant. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a motivé ton engagement envers ce que tu appelles la nouvelle cantine ?
Ben, c'est un engagement qui date maintenant. Je travaillais avant dans un foyer d'accueil médicalisé. Un jour, j'ai laissé le dessert surgelé au congélateur et je me suis mis à faire le dessert moi-même. Et quand j'ai vu l'effet que faisait ce dessert, je me suis dit qu'avec si peu de choses, c'était possible de faire plaisir à ces personnes à ce moment-là. Donc je me suis dit qu'il y avait moyen de faire autrement et de faire mieux en restauration collective. Et depuis ce jour, je tire la ficelle et à l'époque, c'était de changer un plat ou deux. Et puis au fur et à mesure, c'est de révolutionner la cantine peut-être, en tout cas de prouver effectivement qu'une autre cantine est possible. Et la nouvelle cantine, c'est ça, c'est peut-être essayer de réinventer la cantine pour prouver qu'il est possible de proposer autre chose.
Et alors, qu'est-ce qui explique que si peu d'établissements parviennent justement à atteindre ce niveau de qualité? On entend souvent dire que le prix des aliments bio est un obstacle insurmontable pour les cantines. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est quoi tes secrets finalement de fabrication?
La grande clé, en tout cas pour moi, c'est le savoir-faire des cuisiniers. Et quand les cuisiniers sont formés, ils ont ces compétences, remettre à cuisiner simplement une cuisine familiale, tout devient possible. Donc c'est ce que j'évoque souvent, en tout cas le savoir-faire et la maîtrise des cuisiniers qui permettrait en tout cas de lever tous ces petits leviers, le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petits leviers qui font que du coup on arrive à s'approvisionner en produits de qualité. Mais je pars du principe effectivement que c'est la formation et les connaissances du cuisinier qui arrive à mettre en place toute cette organisation et tout ça pour s'approvisionner différemment.
Oui, c'est-à-dire que on a fait un peu le tour des réserves là avant l'émission et j'ai vu ici ou là des chambres froides, des lieux de stockage avec énormément de choses différentes et que des produits bruts que toi tu réceptionnes tel quel et que tu traites sur place, c'est-à-dire que tu ne reçois, tu ne commandes rien qui soit déjà cuisiné.
Complètement. Se remettre à cuisiner et tout cuisiner, donc la restauration collective, elle s'est construite autour de tous les produits industriels. Et effectivement, la première étape est la plus simple pour dire, c'est effectivement de se remettre à cuisiner, donc retravailler des produits bruts, refaire sa pâtisserie soi-même, travailler, éplucher les oignons, lever les filets de poisson, découper de la viande. Tout ça, ça permet d'accéder à des produits de qualité. Mais du coup, il faut que le cuisinier et que son équipe soient capables du coup de les travailler, de les transformer pour pouvoir les servir.
Donc c'est aussi des savoir-faire qu'il a fallu transmettre à l'équipe ou même apprendre toi-même, peut-être que tu ne savais pas tout faire.
Des savoir-faire et même des savoir-être, parce que ça va aussi dans des pratiques de travail en commun et tout ça, donc du travail plus collectif. Donc c'est tout plein de petites choses comme ça qui permettent effectivement de se réapproprier cette cuisine. Et souvent on me dit, mais comment c'est possible ? avec plus de personnel, moins de personnel, etc. Donc c'est vraiment juste des petites choses simples à faire, simplifier les repas, les propositions, pour que ça soit abordable. Et puis on n'est pas ici pour faire de la restauration gastronomique, donc c'est une cuisine familiale de tous les jours, nourrir les enfants et les usagers simplement. Donc le défi, c'est vraiment juste de se réapproprier ces produits, de savoir les traiter et les cuisiner simplement, le plus simplement possible. C'est une manière aussi de respecter le travail qui est fait par les producteurs. Et donc voilà, donc des petites touches de, comme je disais, de réorganisation, de sensibilisation auprès des enfants, de simplification, enfin plein de petites choses qui font que tout devient possible.
Et j'imagine qu'il faut une équipe quand même particulièrement enthousiaste pour réussir à, bon bah, à commencer par travailler les produits frais le matin et avoir cet élan là. Vous êtes aussi un petit peu guidé par les retours des élèves. J'imagine que le fait de les voir manger, ça doit entretenir un petit peu aussi la dynamique.
Bah oui, complètement. Alors le rapport avec l'équipe et tout ça, moi je dis aussi que c'est une manière d'être et de faire. Finalement, servir des produits bio, c'est pas juste servir des produits labellisés. C'est aussi peut-être repenser un peu son environnement avec qui on travaille, les producteurs et puis les gens qu'on sert, effectivement, les enfants, et de venir expliquer ce qui se passe, de venir sensibiliser pour que les enfants ils s'approprient aussi le travail qui est fait et qu'ils comprennent ce qui est fait aussi en cuisine.
Oui, alors toi, comme tu es chargé justement des commandes, tu es en lien direct avec les producteurs, tu vas visiter les fermes et j'ai vu que tu emmenais même des élèves en visite de ferme pour aller rencontrer les producteurs et du coup aussi sur pied les produits qu'ils vont manger à la cantine plus tard. Ça marche bien ça, les élèves suivent ?
Les élèves adorent et ils arrivent toujours un peu timides chez les producteurs. Et puis à la fin, on s'en va, il y a des milliers de questions qui ont fusé, et on s'aperçoit qu'on a fait des maths, qu'on a fait plein de matières finalement qu'on pratique ici à l'école dans les classes, mais qu'on a fait et qu'en discutant avec les producteurs, on a appris plein de choses. Donc effectivement, les enfants sont ravis. Ils sont toujours un peu, comme je disais, un peu frileux au début et un peu timide, mais une fois qu'on passe quelques barrières, on est obligé de les freiner parce que sinon ça part dans tous les sens, mais c'est ça qui est génial.
Et j'imagine que ça permet aussi de sensibiliser les élèves à une nourriture qui est un peu différente de ce que parfois ils attendent, les steaks frites, cordon bleu, etc. Comment toi t'arrives à les faire sortir un peu de ces rails-là pour les emmener vers une alimentation plus diversifiée, plus variée, avec des choses qu'ils ont peut-être pas l'occasion de manger à la maison, des légumineuses, des choses comme ça.
Ben c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour certains enfants. Alors ça dépend. C'est comme je l'évoque souvent, c'est le capital culturel de chacun. Donc il y a des enfants qui ont cette habitude-là et qui voyagent par exemple et donc qui ont l'habitude de goûter des alimentations de cultures différentes et qui reviennent des fois après les vacances et qui vous donnent un conseil. Et puis d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué et qu'il va falloir sensibiliser, expliquer ce qui se passe pour qu'ils identifient les préparations. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un repas végétarien ? Qu'est-ce que c'est un repas végétarien ? Pourquoi est-ce qu'on sert ça aujourd'hui ? Quels sont les produits qu'on trouve dans une poêlée de légumes ? Et pourquoi est-ce qu'on les sert là et puis régulièrement en hiver et puis pas au mois de juin ? Enfin, c'est toute cette sensibilisation et tout ce partage qu'il faut faire auprès des enfants pour qu'ils acceptent et qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils acceptent de goûter et de participer.
Globalement, t'as des bons retours quand même.
Bien sûr, il y a plein d'enfants qui sont très contents et qui nous font des super retours, qui participent quand on fait des jeux, etc., qui se disputent. C'est comme je dis, au début, c'est souvent un peu compliqué, ils sont timides et après, il faut freiner tout le monde parce que sinon, tout le monde veut la place de l'autre, tout le monde veut participer. Non, mais c'est ça qui est génial, mais ça fait des super échanges et ça fait aussi, comment dire, une des compétences ou une du partie du métier de cuisinier de collectivité qu'on évoque très peu et qui, pour moi, est un des moments super, en tout cas, à partager avec les enfants. Donc ça, c'est hyper valorisant pour les cuisiniers qui travaillent dans les établissements scolaires.
Ouais, ce qui est valorisant aussi, c'est que bon, les élèves ne sont pas les seuls à voir le travail de ton équipe, puisque depuis quelques années, quand même, les distinctions et les reconnaissances pleuvent sur la cantine du collège, comme le prix national Cantine Rebelle en 2020, et puis ton audition aussi par l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es retrouvé à parler de ton travail, à être auditionné par les parlementaires ?
Parce que c'est effectivement, je suis sollicité pour expliquer comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on arrive à passer tous ces leviers, à faire autrement en tout cas. Et puis c'est dans mon envie aussi de partager au plus de personnes possible cette idée qu'une autre cantine est possible. et qu'il est possible de faire autrement ou autre chose, dans cette idée, encore une fois, de revaloriser le travail des cuisiniers de collectivité. Et donc, c'est ce que j'essaye de porter souvent. On voit souvent que dans ces instances et dans ces moments de réflexion autour de la restauration collective, souvent, c'est des diététiciennes, des élus, des parents d'élèves qui participent à ce genre de rencontres et à ce genre de moments. Mais jamais les cuisiniers. Et l'exemple de la loi Egalim, il est frappant parce que effectivement ces lois, elles se construisent, mais pas une seule fois on a sollicité les cuisiniers pour savoir si allait y avoir des contraintes et s'ils pensaient que ça allait être réalisable d'atteindre les objectifs qui étaient demandés.
Bon, pour le coup, tu nous fournis la preuve qu'ils sont atteignables.
Et donc
objectifs.
C'est ce que je vais témoigner. Je témoigne du coup aussi que c'est atteignable si on forme les cuisiniers et si les cuisiniers sont conscients de ça, si on revalorise le travail de tous ces cuisiniers en restauration collective. Si on arrive à inventer autre chose, peut-être, on arrivera à attirer d'autres cuisiniers qui viendront et qui seront en mesure de lever tous ces leviers et de mettre en place toutes ces pratiques et du coup de tout changer.
En fait, aujourd'hui, près de la moitié des repas de la restauration collective sont préparés par des prestataires en dehors des établissements. Et ce marché de la restauration collective qu'on appelle concédé, donc c'est le terme officiel, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est l'équivalent de 110 000 salariés en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE qui datent de 2019. Mais l'INSEE pointe justement que ces emplois sont majoritairement peu qualifiés, souvent à temps partiel, et que ce marché est dominé à 70% par trois entreprises multinationales, dans lesquelles ce travail dont tu parles, ce travail de cuisinier, de valorisation de compétences, il n'est pas présent. Et donc c'est ça aussi, toi, que tu portes, c'est cette idée de relocaliser aussi le fait de faire à manger dans les établissements.
Complètement.
À une échelle humaine, finalement.
Tout à fait. De recréer ce lien et les échanges avec les enfants, mais reconstruire aussi avec les producteurs, connaître son territoire. Si on est au plus proche de là où on vit et si on travaille au plus proche, effectivement, c'est plus valorisant et du coup, c'est réalisable. La restauration collective, elle s'est construite et elle s'est centralisée dans les années 80. Comme pour beaucoup de secteurs, comme dans l'agriculture, on a voulu rentabiliser. On s'est dit que les compétences du cuisinier, on n'en avait plus besoin parce qu'on allait faire du prêt-à-manger et qu'on allait besoin juste d'agents pour faire de la réchauffe. Déqualifier les personnes et du coup on se retrouve effectivement avec des personnes qui sont pas qualifiées, qui ont des contrats pas très avantageux et qui fait que la restauration collective, elle en est ce qu'elle est née aujourd'hui. On a tous vécu, on a tous goûté les épinards qui flottent, les macédoines de légumes et d'ailleurs on connaît tous les mêmes menus, les mêmes préparations parce qu'on a tous mangé la même chose dans toutes les cantines de France parce que c'est centralisé. Parce que les industriels, ils ont prévu 5 entrées en tout prêt, prêtes à servir et simples à faire. Et donc, c'est tout ça qui s'est construit comme ça. Et c'est ce que j'essaye de prouver, c'est que qu'il faudrait revenir en arrière et en tout cas essayer d'inventer quelque chose.
Merci Pierre-Yves, on s'est régalé en écoutant ton expérience. Mais nous pourrions également nous plonger dedans grâce à un film documentaire en préparation, puisque le réalisateur Jacob Redman va nous en parler, mais ce sera juste après cette petite douceur musicale.
Jeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Nouvelle génération, oh, le monde est dans nos mains. Donc passons à l'action pour les futures générations. Il faut changer tout ça pendant que leur monde déconne. Car c'est une question de santé. La terre est en danger. Tout est accéléré par l'homme et tous ses excès. Et je sais que vous sentez que dans l'air pollué, que tout a changé et que ça va mal terminer. Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain. Que les erreurs d'hier restent bien hors du chemin. Si la terre se dégrade, ne restons pas que témoins. Yes, I said. Il faudra en prendre soin. Nouvelle génération. Le monde est dans nos mains, donc passons à l'action pour les futures générations. Il faut changer tout ça pendant que leur monde du trône.
On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Pour que la pollution régresse, elle progresse. C'est la planète qui encaisse les marées, le réchauffement, tous les déchets qui la blessent. Faut qu'on cesse
cette folie là, cette folie là.
Les animaux disparaissent, l'écosystème qui s'abaisse. Yo, on fait passer les années pour truc dans l'eau de paresse.
Ça fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor. Remettre à demain, repousser tous les torts. Assume ses drames et ses vilains. Pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne.
Les Audacieux sur Radio Balade.
Et nous sommes de retour avec le vidéaste Jacob Redman et avec Pierre-Yves Rommeler, le plus grand pourvoyeur aux doigts de plats de résistance. On parle bien sûr ici de résistance à l'uniformisation du goût et à la malbouffe dans la restauration collective. On vient d'entendre l'histoire de Pierre-Yves, mais pour certains, ce n'est pas suffisant, il faut la montrer. Jacob, tu œuvres au sein de l'association de production audiovisuelle Covisuel et tu as notamment à ton actif le documentaire Pays des Flores, réalisé dans les montagnes des Hautes-Pyrénées et qui a reçu plusieurs prix. Et tu es maintenant en train de chercher des producteurs pour un projet de documentaire intitulé La cantine des possibles et qui se passera ici même, au collège de Lézignan. Alors d'abord, comment tu t'es retrouvé avec une caméra dans la cuisine de Pierre-Yves ?
Bonne question. En fait, on a rencontré Pierre-Yves il y a quelques années en arrière à une fête paysanne à Asianet. Et il y avait une conférence dégustée. Et Pierre-Yves nous a présenté plus ou moins ce qu'il vient de nous dire. Et avec Anna, ma compagne et productrice de Covisuel, on est tombé un peu amoureux de ce projet. On a trouvé ça génial. Et on s'est dit, ça pourrait être notre prochain documentaire. On s'est dit, on va rencontrer Pierre-Yves, on va lui demander est-ce qu'il serait intéressé de faire ce film avec nous. Et il a dit oui, ouais, pourquoi pas. Bon, après, il y a eu le Covid, il y a eu un peu de temps. Mais l'idée était derrière là. Dans notre tête, on avait envie de contribuer à notre façon, à œuvrer pour l'environnement à travers notre art, la vidéo.
Ouais, qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire en particulier? Ça tire plusieurs fils, c'est ça? Le goût, le social, le lien aux enfants, la transmission, l'agriculture paysanne. Enfin, j'imagine, c'est beaucoup de choses.
Ouais, Pierre-Yves, il disait un truc dans la conférence qui parlait de changement total. Je crois que c'est ça qu'il disait. Et du coup, ça vient toucher tous les différents sujets sociétaux. Donc, il y a la santé, l'environnement, le bien-être, l'économie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent changer assez rapidement avec une seule loi qui peut avoir un impact sur tous les secteurs, comme la cuisine collective.
Le fait que le collège, par exemple, fasse ses achats dans un périmètre assez restreint autour de Lézignan, auprès de producteurs, fait que finalement, la cantine du collège est coproductrice de l'agriculture paysanne de son territoire. C'est ça aussi, Pierre-Yves. Vous vous inscrivez avec le collège dans le tissu économique local.
Complètement. C'est un vrai soutien. Ça peut être un vrai soutien à l'agriculture locale. Il faut imaginer tous les collèges du département ou de la région qui s'approvisionneraient intégralement en produits locaux, en tout cas le plus possible. Il faut imaginer le poids et le levier que ça représenterait pour changer. Et comme le dit Jacob, effectivement, la restauration collective et la cantine, en tout cas, c'est peut-être comme disait Jacob, un fait social total, parce qu'il impacterait tous les sujets de la société. Donc on parle de santé, on parle d'environnement, on parle d'agriculture, on parle de culture, on parle d'éducation au goût. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est génial et que je partage le plus régulièrement possible.
Et toi justement, Pierre-Yves, tu as déjà coécrit un livre sur le sujet qui s'appelle Une autre cantine est possible aux éditions du Croquant. Et comme on l'a dit précédemment, tu as été auditionné par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en quoi un documentaire peut compléter ce plaidoyer et aider à faire changer les mentalités et les pratiques ?
Ça fait un outil de plus pour partager cette idée qu'effectivement la cantine peut être ce levier-là. et que tout le monde prenne conscience, en tout cas, que c'est possible, que dans certains collèges, dans certaines cuisines, il y a des cuisiniers qui se mettent à tout changer. Et donc, l'idée, c'est de partager ça au plus grand nombre pour que tout le monde prenne conscience et voie la cantine peut-être différemment. Et peut-être il y a justement toute la valeur à retrouver, en tout cas, sur la restauration sociale quand on l'imagine comme ça.
Et alors, ce sera quoi, en fait, le canal principal de diffusion de ce film? Le but, Jacob, c'est que le film sorte sur grand écran, qu'il tourne sur les cinémas.
Ce serait notre premier film à destination nationale, quoi, pour le cinéma national. Mais aussi, on aura envie de faire une version pour le 52, pour les petits écrans, pour la télévision, pour toucher le plus grand nombre, en fait. C'est vrai qu'un bouquin, c'est super, mais c'est un bouquin assez technique, assez niche pour les professionnels. Et là, on va essayer de faire un film qui va toucher tout un chacun. Peut-être le porter aussi à l'Assemblée nationale, le porter, d'avoir un outil de lobbying. Mais avant tout, ça va être quand même un film sensible qui sera autour de Pierre-Yves comme un portrait. Et on va graviter autour de d'abord sa brigade, genre, en tout cas les cuisiniers qui l'aident, puis après les producteurs, les productrices du coin, les élèves, qui les usagers, ceux qui mangent cette nourriture, peut-être un sixième qui rentre dans le collège, puis peut-être un troisième qui a déjà fait tout son parcours ici dans la cantine. Donc il y aura tout un travail de casting et de mise en lumière de cette pratique.
Tu veux montrer quelque chose de très sensible aussi du quotidien. T'as fait une sorte de bande-annonce aussi où on voit Pierre-Yves le matin là, à 6h du matin en train d'éplucher des carottes avec un côté vraiment se confronter à la matière. Ça fait écho aussi ce dont on parlait précédemment, qui est le fait que là on a une cuisine qui est à taille humaine, une sorte de contre-modèle aux grandes cantines, aux grandes centrales semi-industrielles. C'est ça aussi que tu veux montrer, c'est ce côté un peu artisanal et très humain.
Voilà, on va essayer de plutôt montrer que d'expliquer. Ça va être vraiment quelque chose qu'on voudrait faire dans ce film, c'est-à-dire de le voir faire, de le voir interagir avec les producteurs, avec son équipe, de le voir interagir avec les élèves et pas faire des interviews face caméra. En fait, le petit film qu'on a fait là, Ma part à jouer, c'était un film qu'on a réalisé avec des éléments de repérage pour un concours national. Dans notre film, il n'y aura pas d'interview, ça sera juste, on va vraiment le voir faire, quoi.
Réaliser un film, c'est un défi, hein, particulièrement. Donc, au-delà de cet angle de ce que tu veux montrer, il y a aussi le fait de financer le film, de réussir à le produire. Pour la cantine des possibles, tu as commencé avec un financement participatif pour donner un peu la première impulsion. Ça s'est plutôt bien passé, non?
Ouais, d'abord, on a eu, il faut le mentionner, on a eu une aide d'une fondation, une aide assez conséquente pour l'écriture, ils ont cru dans ce projet, ils se sont dit, ouais, on va vous donner de l'argent pour faire tout ce repérage. Après, on a fait le financement participatif, on a soulevé près de 22 000 euros, ce qui est passé par rien. On a eu des promesses de 3 000 euros aussi de Biocoop Région. Voilà, on a des soutiens. Il y aura peut-être d'autres fondations qui va nous épauler. Aujourd'hui, on est en pourparlers avec des producteurs. On va d'abord travailler, voir avec les producteurs locaux. On est en lien avec, par exemple, Andera, en ce moment, on est en train de discuter si on peut pas travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a une très bonne réception sur le film. C'est sûr que pour la télévision locale, France 3, région, en tout cas Occitanie, je pense qu'il y aura sans doute un diffuseur là. Pour faire un film de cinéma, c'est toujours beaucoup plus ambitieux. Il faut avoir une vraie écriture, une vraie note d'intention artistique, un vrai propos. C'est plus difficile. Il y a beaucoup plus de monde qui essaie de faire de ces films-là. Il y a une compétition très très forte dans ce secteur et ça prend du temps. Voilà, donc on va sans doute se faire accompagner par un professionnel du scénario pour documentaire.
D'accord.
Pour nous appuyer un peu plus, pour porter le projet un peu plus loin. Et on a ouvert une cagnotte sur un temps un peu plus long sur LOSO pour soutenir le projet. Et du coup, c'est ouvert là aujourd'hui sur le site internet de Covisuel. Vous pouvez faire une donation pour le film.
Donc les prochaines étapes, tu espères pouvoir commencer à tourner quand exactement?
Alors le calendrier, il est un peu soumis à trouver ce producteur. Je pense que les grands tournages, ça va sans doute se passer sur la prochaine rentrée. On va sans doute faire des repérages encore, c'est-à-dire juste tester, voir et faire un peu le casting aussi, même dans les documentaires, il y a un casting. C'est-à-dire qu'on va choisir par exemple la productrice ou le producteur. Est-ce que ça va être plutôt quelqu'un qui fait un éleveur de cochons? Est-ce que ça va être un maraîcher? Est-ce que ça va être un P2 environnement qui fait de l'insertion? Est-ce que ça va marcher avec ces gens-là? Comment on va travailler? On a déjà fait les repérages dans la cuisine. Pareil pour les élèves, on va devoir faire un travail de recherche, de savoir qui c'est qui va être devant la caméra, parce qu'on pourra pas avoir les droit d'image de tout le monde. Donc il y a tout un travail logistique. Et puis la première étape, là, c'est de trouver ce coproducteur qui va pouvoir déposer le film à l'aide au développement du CNC, région, etc. Et peut-être que c'est même pas moi qui va filmer. À ce moment-là, ça sera peut-être quelqu'un qui a encore plus d'expérience que moi. Voilà, ça, c'est ça qu'on est en train de réfléchir et comment on va porter le film le plus loin possible, en fait. Un film, c'est un travail d'équipe avant tout. Et c'est vrai que c'est super de bricoler à deux et de faire des petits films avec nos moyens. J'en fais depuis maintenant 15 ans. Mais là, on a envie de monter un niveau plus haut. Et pourquoi pas travailler au niveau national, mais peut-être aussi international, essayer de le faire dans des festivals internationaux, etc. C'est ça la visée à long terme, quoi. Alors,
ouais, d'autant que c'est une thématique qui en fait est extrêmement porteuse, qui concerne quasiment tout le monde. Je veux dire, on est tous concernés de près ou de loin par la restauration collective dans la vie de tous les jours. Notamment, tu en parles, toi, Pierre-Yves, comme d'un levier extrêmement important, la restauration collective, pour faire changer les mentalités, faire changer les pratiques, et puis voilà, changer même le modèle agricole, le modèle alimentaire en lui-même. Et tu parles notamment aussi, Pierre-Yves, je voulais revenir dessus, sur le terme de restauration collective. Souvent, quand tu communiques dessus sur les réseaux sociaux, en parlant de restauration sociale et en invitant les cuisiniers à venir te rejoindre dans ce secteur de la restauration qui finalement est en dehors de l'économie de marché et qui est là pour fournir un service collectif pour nourrir le monde finalement.
Oui, complètement. C'est une réflexion parmi toutes les réflexions sur ce travail qui me passionne, de sortir de cette notion de restauration collective qui est bien souvent dévalorisée, et puis du coup de remettre des mots peut-être plus importants et qui correspondent mieux à ce qui peut se faire à la cantine. Et donc effectivement une restauration sociale, parce qu'à la cantine on nourrit tout le monde sans distinction, parce qu'à la cantine on essaye de respecter tout le monde. Donc ça va aussi bien du travail, des horaires des cuisiniers, de leur salaire, des usagers, des producteurs. Donc c'est tout ça qu'on prend en compte, et comme je le disais tout à l'heure, autour d'une cantine bio, est-ce que c'est du bio qu'il faut parler, mais en tout cas des pratiques et d'une manière d'être et de faire qui devient différente. C'est ça que je veux retrouver dans ce terme de restauration sociale.
Bah, merci beaucoup, tu as même résumé le menu du jour finalement. Bah, merci messieurs de nous avoir mis l'eau à la bouche, et on a évidemment hâte de découvrir ce documentaire, parce que pour notre part on va ranger les micros et laisser la cuisine du collège à son quotidien gourmand, puisque Les Audacieux c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Jacob.
De rien.
Merci Pierre-Yves.
Avec plaisir.
Voilà, cette émission a été préparée et présentée par Aurélien Cula, enregistrée au collège Joseph Anglade de Lézignan-Corbière, avec l'oreille bienveillante du proviseur Stéphane Van Vollegem, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. On se retrouve bientôt pour découvrir de nouveaux super-héros du quotidien, et d'ici là, prenez soin de vous.